Radio Campus.
C'est 883,
la radio underground.
Will change your life.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans et on est sur la science infuse. Donc moi c'est Quentin et je me retrouve avec Félix. Bonjour.
Salut.
Félix.
Salut, ça va ?
Donc on a un... Alors pour le programme, on va tout d'abord commencer par une chronique de Félix sur les effets psychologiques au niveau des astronautes sur l'overview dont tu nous parleras tout à l'heure.
Ouais.
Et ensuite, je vais vous faire un petit agenda scientifique au niveau de ce qu'on peut faire autour d'Orléans mais aussi à Paris. Et ensuite, j'enchaînerai avec un petit jeu que je vais faire avec toi, Félix. Je vais te proposer des faits scientifiques et tu devras me dire si c'est vrai ou faux.
Voilà. Okay.
Donc okay. Je compte sur toi pour faire un sans faute.
Ouais, je vais essayer de voir si ma culture porte ses fruits.
Et ensuite, on vous dira les différents programmes de la journée. Le prochain titre sera Geneviève Murphy de How About to Turn 8.
I was about to turn 8. I was about to turn 8. I was about to turn 8. I was about to turn 8. I was about to turn 8. I was about to turn 8. I was about to turn 8. I was about to turn 8. I was about to turn 8. 8. 8. 8.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus Orléans, c'est Félix, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie tout simplement de vous parler d'un de mes sujets favori, on va dire, en astronomie, c'est plus ou moins l'astronomie, mais ça y est quand même beaucoup lié, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'overview effect. Alors l'overview effect, en français, pour l'effet, on va dire, vu d'ensemble ou l'effet vu global, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un terme inventé en 1987, qui est devenu populaire plutôt dans les années 2010, par un écrivain et philosophe américain autoproclamé, Frank White. Et il a utilisé ce terme pour décrire tout simplement le sentiment de voir la Terre depuis l'espace. Alors en fait, cet Américain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a interviewé et fait des recherches sur beaucoup d'astronautes, beaucoup de types d'astronautes, que ce soit des astronautes américains, russes, canadiens, des missions lunaires, des missions de navettes spatiales, de stations spatiales, même des touristes et plein d'autres encore. Et il a remarqué dans son livre qui porte le même nom, Overview Effect, que beaucoup d'entre eux, même quasiment la totalité d'entre eux, disaient que voir la Terre depuis l'espace, c'était tout simplement la meilleure chose de leur vol. C'était vraiment quelque chose qui a changé leur comportement une fois de retour sur Terre et que c'était quelque chose qui les a beaucoup marqués. Alors ce philosophe américain, il a remarqué ça, il a trouvé quand même ça étonnant. Ce qu'il a trouvé étonnant surtout, c'est que c'était vraiment commun à absolument tout le monde. Encore une fois, peu importe les époques, le contexte, toutes les personnes qui étaient allées dans l'espace disaient que c'était vraiment ce qui les avait le plus marqués. Et tout simplement, ça a ouvert la porte à quelque chose d'assez inconnu, à presque même, on pourrait dire, un effet mental ou psychologique, on va dire, du cerveau humain qui jusque-là était inconnu, qui est le fait de voir la Terre, l'ensemble de sa planète, depuis l'espace, depuis un regard extérieur en soi. Vraiment, c'est l'idée de voir absolument toute la planète d'un coup, d'un seul coup d'œil même, de voir tous les pays, tous les paysages, de faire même le tour de la Terre en seulement... en même pas, on va dire, 2 heures. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau à l'époque qui vient de découvrir, de mettre la main dessus, on va dire. Alors il faudrait des heures pour en parler, hein. C'est un sujet que je trouve vraiment passionnant, c'est limite philosophique. Et donc, comme je vous le disais, c'est assez nouveau. Il y a encore pas mal de choses à explorer dans ce domaine-là. Avant la conquête spatiale, on ne pouvait tout simplement pas savoir que de tels phénomènes existaient. Même si, on va le voir à la fin, il y a quelques indices, quelques similitudes avec des phénomènes plus lointains dans l'histoire. Et donc voilà pourquoi je voulais vous en parler, parce qu'en fait, on a là potentiellement un nouvel effet psychologique inconnu jusque-là du corps humain, peut-être même un nouveau domaine de la psychologie à part entière, lié à l'espace, au cosmos en général. Et c'est peut-être tout simplement un effet mental d'ordre quasiment scientifique, hein, qui ne dépend pas seulement du caractère ou du contexte d'un tel ou d'un tel, mais bien de l'espèce humaine en général. Alors à chaque fois, chez ces astronautes, on remarque quand même une prise de conscience très forte, prise de conscience écologiste, pacifiste, voire même divine pour certains. En fait, avant même l'invention de ce terme et on va dire la popularisation de ce terme dans les années 2010, on avait déjà quelques prémices de ce genre de phénomène avec les débuts de la conquête spatiale, avec par exemple des photos très connues, hein, le lever de Terre d'Apollo 8, hein, vous savez, cette photo de la Terre qui se lève, on va dire, de la surface lunaire, un peu comme le Soleil se lève sur Terre. La photo surnommée Pearl Blue Dot, où la Terre apparaît comme une minuscule petite étoile et qui a été photographiée par la sonde Voyager dans les années 90 à des millions de kilomètres de la Terre. Ou même tout simplement, à l'heure actuelle, dans la Station Spatiale Internationale, vous savez peut-être qu'il y a une sorte de coupole qui permet vraiment d'observer la Terre et d'avoir une vue assez globale, on va dire, du paysage spatial. Et donc tous ces événements, quand on voit quand même l'impact écologique et social et même pacifiste, suivant leur contexte historique qu'ils ont pu avoir, on se rend compte que finalement c'était peut-être des indices de ce phénomène de l'overview effect. Par exemple, pour reprendre le lever de Terre d'Apollo 8, à l'époque c'était à la guerre du Vietnam, dont les États-Unis étaient évidemment très concernés. Donc cette photo, mine de rien, elle a quand même participé à une certaine prise de conscience écologique et pacifiste, avant même donc l'invention de ce terme de l'overview effect. Et d'ailleurs, hein, depuis le début de la conquête spatiale, les astronautes ont toujours été en quelque sorte des ambassadeurs de cette idée, de ces prises de conscience. Encore aujourd'hui, ils le sont. Hein, l'exemple le plus parlant pour nous, c'est Thomas Pesquet. Après le retour de ces 2 vols spatiaux, on l'a vraiment entendu partout dans tous les médias dire à quel point la Terre était fragile, à quel point ça l'avait bouleversé, etc. Et c'est pas étonnant, hein, c'est vraiment depuis les débuts de la conquête spatiale, on remarque cet aspect-là. Alors on est tenté de se dire, vu l'ampleur du phénomène, vu apparemment l'impact psychologique que ça peut avoir, pourquoi on ne tenterait pas de reproduire cette prise de conscience? Parce que, mine de rien, seulement entre guillemets 600 humains et quelques sont allés dans l'espace, Donc, même si c'est une prise de conscience très forte pour eux, ça suffit pas vraiment sur Terre à faire changer les choses, malheureusement. Donc, il y a eu des tentatives de reproduction de l'Overview Effect, mais sur Terre, avec notamment la réalité virtuelle. Par exemple, il y a l'Université du Missouri qui a tenté une étude en mettant des volontaires dans un casque réalité virtuelle, dans le noir, et en les faisant même flotter dans un bain pour reproduire, on va dire, la situation d'apesanteur qu'il y a dans l'espace. Il y a aussi un film qui a été projeté dans un cinéma en 360 degrés et en 3D, un film qui s'appelle The Infinite, et qui plonge le spectateur dans l'environnement de la Station Spatiale Internationale, avec là aussi des vues de la Terre. Et il y a eu même, une année, dans la cathédrale de Londres, une reproduction de la Terre de 7 mètres de diamètre, faite à partir de photos extrêmement détaillées de la NASA, là aussi pour essayer de montrer aux gens à quel point la Terre pouvait être fragile et même belle, tout simplement. Donc ces tentatives de reproduction, elles montrent bien quand même que même si très peu d'humains ont eu la chance de pouvoir vivre cet overview effect, ça affecte quand même pas mal de gens et on se rend vraiment compte du potentiel, du pouvoir de changement de cet effet-là en vue de toutes les tentatives de reproduction qui ont été faites, y compris des tentatives très sérieuses. Hein, je vous parlais donc de l'Université de Missouri par exemple. Alors ça serait intéressant aussi de faire quelques comparaisons de ce phénomène avant la conquête spatiale, avec tout simplement ce qu'il y avait avant, c'était l'aviation. Par exemple, en 1957, le journal de la médecine de l'aviation avait appelé le break-off phénomène, donc qu'on pourrait traduire par le phénomène de détachement ou de séparation, entre guillemets, qui serait un sentiment de solitude, voire de détachement du monde, une sorte de perte de connexion avec la civilisation ressentie par un pilote lorsque celui-ci est à très haute altitude. Quand un pilote est à très haute altitude, en fait le ciel est déjà quasiment noir, il peut presque voir la rondeur de la Terre déjà, donc on est déjà assez proche des sentiments de l'espace. Et c'est intéressant de noter que, avant même la conquête spatiale, avant les premiers humains dans l'espace, il y avait déjà certains organismes d'aviation qui avaient reconnu, on va dire, qu'il y avait un petit phénomène qui se jouait là-dedans. Et avant même l'aviation, on peut noter l'historien des sciences Jordan Bream qui, en 2014, a comparé cet overview effect à la philosophie britannique dite du sublime, qui est une philosophie apparue au XVIIIe siècle et qui raconte plus ou moins le phénomène, mais cette fois-ci pour les alpinistes, c'est-à-dire pour les personnes qui, une fois en haut de la montagne, ont accès à vraiment un paysage absolument gigantesque. Là aussi, si la montagne est très haute, ils peuvent voir la rondeur de la Terre. Là aussi, le ciel est beaucoup plus foncé, beaucoup moins bleu. Cette philosophie du sublime, qui est donc apparue au XVIIIe siècle, ça montre que, déjà il y a 300 ans, finalement, on avait déjà des prémices de cet effet-là. Et ça peut laisser à croire, en fait, que l'overview effect, bah, depuis le temps, il était caché, en fait, dans notre cerveau, depuis le temps, ce phénomène psychologique. Et de temps en temps, quand on en a eu l'occasion, au fur et à mesure des avancées technologiques, on a pu le découvrir petit à petit jusqu'à aujourd'hui avec la conquête spatiale. Sachant que peut-être que l'Overview Effect est lui-même un prémisse de quelque chose d'encore plus grand encore. Hein. Quand des astronautes iront sur Mars, il leur arrivera même des moments où ils ne verront plus la Terre du tout. Là aussi, on ne sait pas exactement ce que ça leur fera en termes de conséquences psychologiques. Qu'est-ce qu'ils en penseront d'un point de vue humain ? Donc l'Overview Effect n'est peut-être pas la dernière étape, on va dire, de ce phénomène. Et donc voilà, l'exemple de l'aviation et de la philosophie du sublime, c'est deux exemples qui sont très intéressants parce qu'ils montrent que, même si c'est plusieurs époques, avec leurs moyens et leur contexte, on sent quand même une tentation, une envie, un vrai désir de mettre un nom sur cette émotion, de vraiment nommer cette émotion. Tout le monde l'a remarqué, même si elle était plus ou moins forte, encore une fois, suivant la technologie disponible à l'époque. On note quand même une envie de mettre un nom dessus, de mettre des mots dessus. Voilà, à peu près, j'essaie de résumer ce sujet du mieux que j'ai pu. Encore une fois, c'est vraiment un sujet passionnant, il faudrait des heures pour pouvoir en parler. Si vous voulez en savoir plus, je peux vous conseiller le livre de Frank White, tout simplement. Donc, The Overview Effect, Space Exploration and Human Evolution. Il y a une quatrième édition qui est sortie même en 2021. Alors, malheureusement, c'est disponible que en anglais. Mais si vous savez lire l'anglais, ben, vous allez être comblé parce que ça fait quand même 600 pages, mais ça contient justement toutes les recherches et interviews dont je vous parlais au début, recherches qui ont pu être complétées avec le temps, avec les nouvelles éditions. Et enfin, je vous conseillerais aussi de voir, en fait, j'ai presque envie de dire n'importe quelle interview d'un astronaute, parce que, et c'est là où ça confirme entre guillemets ce que dit Frank White, c'est que peu importe l'astronaute en question, peu importe la mission qu'il a effectuée, quasiment à chaque fois qu'il y a une interview qui est faite sur lui, sur sa mission, sur sa vie, à chaque fois quasiment, il parle vraiment de la Terre. À chaque fois, le sujet de la Terre est évoqué, le sujet de voir la Terre depuis l'espace est vraiment évoqué, et à chaque fois, il passe vraiment plusieurs minutes dessus. Donc là aussi, ça montre vraiment, ça vous permet de vous rendre compte vous-même pour de vrai que l'overview effect est bien réel, entre guillemets. Et ça permet vraiment de se rendre compte de l'ampleur de ce sujet dans le cerveau humain. Bref, c'est tout pour ce sujet. J'espère qu'il vous aura plu. Cette émission sera en rediffusion sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Sur ce, il ne me reste plus que vous dire merci de votre écoute et à bientôt.
Et maintenant, voici Afroz de Good Love.
I've been looking far in the hope to find love forevermore, one that's right on time. It's what we're living for, it can't be a crime. Unconditional love personified. It's not always easy.
et c'était Saint Delay de First of May. Et maintenant, nous nous retrouvons pour l'agenda de la semaine. Donc, Félix, est-ce que tu connais le MOB ?
Oui, bien sûr, oui, je suis déjà allé quelques fois.
Et bah, si ça t'intéresse, le MOB, il organise une superbe conférence sur les fourmis samedi. Et c'est à mercredi prochain, pardon. Et c'est à 19h. Et du coup, bah, en fait, c'est sur toutes les questions qu'on peut se poser sur les fourmis. Et c'est organisé par Jean-Luc Mercier de l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte IRBI à l'Université de Tours. Et ça va répondre à plein de questions. Donc, comment une invasion de fourmis se fait dans la région ? Quelles sont les nouvelles espèces invasives qui arrivent sur le territoire, notamment avec le réchauffement climatique ? Comment toutes ces espèces peuvent déséquilibrer les écosystèmes en place et générer plein de problématiques pour la biodiversité ? Donc justement, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé une fourmi, donc quelque peu curieuse, c'est la fourmi coupe-feuille. Et du coup, en fait, c'est une fourmi qui va avoir elle va être cultivatrice, ouais. Et elle va cultiver des champignons. Et en fait, c'est une fourmi qui va ramasser des morceaux de feuilles et les transporter jusqu'à son nid. Et ensuite, elle va les utiliser en substrat pour cultiver un champignon. Donc c'est une symbiose entre le champignon et la fourmi.
D'accord.
Ouais, et parce que justement, cette fourmi, elle va même produire des antibiotiques qui vont servir à protéger ce champignon.
Ah ouais.
Et ensuite, elle va servir de son champignon pour son habitat et notamment pour se nourrir.
Ah ouais, je connaissais pas du tout.
Ouais, donc c'est assez formidable tout ce que les fourmis peuvent faire. Et c'est une des espèces les plus vieilles sur Terre.
Ah oui, carrément.
Ensuite, on va parler d'archéologie. Est-ce que tu vois où est l'hôtel Cabu ?
Non, pas du tout, non.
Ok, donc c'est juste à côté de la maison de Jeanne d'Arc. Et en fait, c'est le musée d'histoire et d'archéologie qui a une exposition qui est prolongée sur tout 2024 et qui expose les richesses archéologiques des collections orléanaises. Et on va notamment découvrir aussi des collections qui viennent de la Méditerranée antique.
D'accord. Voilà, non, donc... ça vient de loin. Là.
Voilà, exactement. Donc si tu as envie de découvrir l'histoire d'Orléans, notamment avant Jeanne d'Arc, c'est l'expo qu'il faut faire. Parce que c'est vrai qu'on se limite souvent à Jeanne d'Arc, oui, mais il y a plein, c'est des milliers d'années d'histoire.
Ah, oui.
Ensuite, je te conseille aussi, samedi prochain, est-ce que tu es déjà allé à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris ?
À Paris, ouais.
Bah, y a une conférence sur l'oreille, donc sur le vestibule. Donc, le vestibule, c'est une partie de l'oreille interne.
Okay.
Et c'est notamment toute la partie qui contrôle évidemment l'audition, mais aussi la stabilité. Donc, c'est ce qui peut donner les vertiges ou le mal des transports. Et toi, je sais que tu aimes bien l'espace, donc ça peut aussi donner le mal de l'espace pour les astronautes.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est l'oreille interne souvent qui
est responsable
de ça. Mais de toute façon, la Cité des sciences et de l'industrie, c'est un lieu, c'est super général pour les sciences en général, il y a plein d'expos. Donc
là, c'est une conférence le 16 mars à 16h et on va justement parler des dysfonctionnements de l'appareil vestibulaire avec Quentin Montardi, un deuxième Quentin, et qui est chercheur en neurosciences.
Ok, merci de la recommandation.
Et ce que je conseille, c'est qu'il y a une expo permanente aussi sur les fous qui est extrêmement intéressante. Pour le coup, je l'ai faite il y a 2 semaines. Et c'est justement d'étudier les foules d'un point de vue scientifique. Donc les foules compactes dans les grands rassemblements, dans les concerts.
Ouais. Oui, c'est une science qui a un nom, je crois, non ? C'est la... Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois que c'est un nom précis. Ouais.
Alors, je l'ai plus non plus, donc il faudrait peut-être que je refasse l'expo.
Ouais, justement. Mais c'est pas compliqué à chercher.
Quand on est coincé dans les fils pour sortir des concerts et tout, l'expo nous donne des petits tips justement pour sortir plus vite. Donc, c'est assez intéressant. Et il y a aussi une projection débat pour le samedi 23 mars. Donc moi, je vais essayer d'y aller parce que ça a l'air passionnant, sur l'intelligence artificielle selon Asimov. Donc, est-ce que tu connais Isaac Asimov ?
Oui, je vois à peu près. Oui, c'est lui qui a écrit. C'est pas mal sur les robots, notamment.
C'est ça. Donc, j'ai adoré. J'ai découvert ses livres il y a quelques années. Donc, c'est ça. Il y a La Fondation, les robots,
l'Empire. Oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est vraiment c'est un astrophysicien américain des années 50 et c'est le premier à avoir créé des lois sur la robotique.
Ah oui, les fameuses. Ouais.
Voilà, ça, les trois lois de la robotique. Donc ça doit être assez intéressant. Et c'est un documentaire qui a été fait par sa fille.
D'accord, ok.
Voilà. Et aussi qui va mettre en parallèle avec toutes les technologies actuelles, comme ChatGPT ou Midjourney. Ouais.
Ok. Oui, c'est très d'actualité en ce moment.
Voilà, c'est ça. Et ma dernière recommandation de la semaine, c'est un film de science-fiction. Est-ce que tu aimes bien la science-fiction ?
J'adore la science-fiction.
Est-ce que tu as un petit film de science-fiction préféré ?
c'est pas original, mais je dirais Interstellar, c'est trop bien. C'est
un classique qui marche à tous les coups. Donc moi, c'est Cloud Atlas.
Bah oui, je vois.
Des sœurs Wachowski, donc c'est les réalisatrices qui ont fait Matrix notamment.
Ok.
Et qui ont fait énormément de films de, enfin qui ont fait plusieurs films de science-fiction. Et Cloud Atlas, c'est vraiment un film très particulier parce que c'est un film historique en même temps de science-fiction qui se déroule. Enfin, le film dure 3 heures quasiment.
Ah oui. Ouais.
Mais à 7 époques différentes. Et en fait, tous les personnages vont avoir des liens entre eux, donc c'est assez passionnant. Et du coup, le film que je veux te parler pour cette semaine, c'est L'Empire de Bruno Dumont, avec des acteurs assez connus comme Fabrice Luchini, Camille Cotta ou Lina Koudry. En fait, qui mêle science-fiction et vie banale dans le Pas-de-Calais.
D'accord.
Ouais, oui, c'est assez loufoque. Et c'est des chevaliers qui viennent du ciel et qui vont être en proie à des luttes sanguinaires à l'annonce de la réincarnation d'un prince interstellaire. Et en l'occurrence, le prince interstellaire, la créature immonde, va se réincarner dans un bébé d'un couple du Pas-de-Calais.
D'accord. Donc, ils ont atterri sur le Pas-de-Calais, le seul endroit de tout l'univers.
C'est ça, c'est de la science-fiction au Pas-de-Calais, pourquoi pas. Donc c'est loufoque à souhait et je pense qu'il faudra bien s'accrocher pour le voir.
Ouais, ça a l'air sympa, ouais.
Et une petite musique. Donc on va écouter Delia Holiday de Silent Street.
Thank you. I wanna go back to the place where I feel that I belong. Oh, I know that the sunshine on the ocean makes me strong. Red wine and the air I breathe, people looking at me and not just through me. Fresh fig speaking through the leaves, people really listen when they talking to me. I wanna go. When I think of my people, my heart's bleeding out. Is this really worth the price of all that sacrifice? I wanna go.
I Wanna Go de Maya and the Angels of Libra. Alors, salut Erwan.
Hey.
Donc, est-ce que vous êtes prêt pour le vrai du faux?
Le vrai du faux, le vrai jeu. Est-ce que la science existe? Moi, je pense que c'est vrai.
Moi,
c'est ça, la première question.
Voilà, t'as tout bon pour la première question.
Merde.
Eh oui. Donc, on va voir là si il y a 4 questions et on va voir si vous en sortez.
Ok. Voilà.
Donc ça, c'est une question.
Roulement de tambour.
Qu'est-ce qu'on gagne à la fin?
Ça sera la surprise.
Ok, super.
Ok, j'adore les surprises.
Faut que vous ayez oublié cette réponse de ma part dans quelques minutes.
Ah ouais, okay. En fait, il n'y a rien à la clé. Ok, vas-y, première question.
Non, mais j'y penserai au prochain épisode, vous inquiétez pas.
Ça marche.
Alors, une étude a démontré que le Botox pouvait soigner la dépression. Alors, à votre avis.
C'est quoi le Botox?
Alors, le Botox, en fait, c'est ce que tu mets dans tes paumes en général quand tu vieillis pour ne pas avoir de rides, pour avoir la peau toute tirée, pour être beau. Voilà.
Pour être jeune et jolie toute la vie.
Voilà, exactement.
Est-ce que le Botox permettrait donc de soigner la dépression? Est-ce que si on se Botox le cœur, ça veut dire qu'on n'a plus jamais de peine de cœur?
Je te déconseille de faire ça. Mais...
Comme quoi, je sais pas, j'ai entendu à la télé qu'on pouvait se mettre de la Javel pour lutter contre le Covid dans les veines. C'est même un président américain qui l'a dit.
Avec beaucoup d'audience, oulala.
Oulala. Donc avec un peu de chance, le Botox dans le cœur, ça permet de jamais avoir de... Ça permet d'être heureux.
C'est pas un président qui l'a dit, mais mais c'est vrai. Et oui.
Non, c'est pas vrai. J'allais dire c'est faux.
Mais non, je pense. C'est vrai que ça permet de soigner les rides. Du coup, tu dis je suis plus beau et du coup ça va mieux, non?
Alors,
je fais des théories.
C'est vrai. Ok, maintenant on va essayer.
Je vous laisserai plus de temps pour les prochaines questions parce que j'aime beaucoup vos théories.
Okay. Ouais, vas-y.
Mais oui, c'est totalement vrai.
Non, c'est pas vrai. Attends, le Botox peut soigner la dépression comment?
Alors oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a un lien entre dépression et la tension excessive au niveau des muscles et sur partout dans le corps. Et en fait, le Botox va justement, en tirant la peau et tout, va détendre les muscles. Et ça va permettre de un peu couper l'interaction cerveau-muscle. Et ça pourrait contribuer en effet au traitement de la dépression.
Okay. Alors, allez voir quand même des psychologues, des psychiatres. Ouais, c'est carrément OK, vraiment un trigger warning. Hein, mais vraiment, si vous pensez être dans un état de dépression, n'hésitez pas à aller consulter des professionnels de santé. Vous pouvez être accompagné, il n'y a aucune honte. C'est carrément normal et j'ai envie de dire c'est carrément sain d'admettre que soi-même, des fois, on peut aller mal. C'est hyper sain de reconnaître qu'on ne va pas bien.
Ouais, c'est déjà une avancée de reconnaître que ça va pas, c'est déjà c'est courageux hein, dans certaines situations.
Et vous êtes pas seul parce que ça touche 264 millions de personnes à travers le monde, donc c'est absolument énorme en fait. Et du coup oui, c'est
question numéro 2.
Allez,
question numéro 2. Alors une étude suggère que les cancers peuvent se développer à la faveur de chocs émotionnels.
Genre un choc émotionnel, genre tu fais un excès de... Tu fais trop de Botox, du coup, t'es allé plus loin que la guérison de ta dépression et t'es tellement heureux, tu pètes tellement la joie que tu déclenches un cancer. Putain, mais ça se fait jamais, dis donc.
Une grosse peine, c'est une grosse joie. Non, après ça va mieux.
Après ça va mieux, ok.
C'est bon.
Voilà. Alors, à votre avis, est-ce que c'est possible justement qu'une maladie comme le cancer puisse être développée après un gros choc émotionnel?
Alors déjà, en fait, il faut rappeler qu'est-ce que c'est le cancer et en fait, comment ça se développe un cancer? Ça vient d'où, en fait, un cancer? Est-ce que vous le savez autour de la table?
Ça infecte une cellule qui, après, en infecte d'autres. C'est quelque chose... Alors, je ne suis pas...
Ouais, moi, je ne suis pas non plus un grand expert, justement, autour du cancer, je peux connaître du sujet. Donc, allez comme vous renseigner, chers auditeurs. Allez comme vous renseigner sur le sujet. Mais il semblerait, en fait, de ma connaissance qui est... pas au ras des pâquerettes, mais presque, que c'est une cellule qui décide de ne plus mourir, qui veut plus mourir pour laisser la place à d'autres cellules et qui, a tendance aussi à transmettre ce gène, parce qu'il y a un gène de l'autodestruction justement de la cellule pour qu'au bout d'un moment, elle meure et apparemment, ce gène mute. Et du coup elle transmet aussi cette capacité à d'autres cellules de ne plus jamais mourir. Et du coup, quand elle se développe, ça commence à créer un autre corps dans votre corps. Et du coup, en fait, le cancer n'est plus votre corps, c'est un corps à part entière qui vit.
Exactement.
On peut faire des bruits de ASMR.
Et ça, c'est le bruit du... Là, tu as une très bonne explication. En effet, c'est une maladie provoquée par la transformation des cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Donc, tu avais très, très bien
dit.
Voilà, exactement. C'est exactement ça.
Donc, du coup, la question, c'est est-ce qu'un choc émotionnel peut par exemple, faire en sorte que des cellules se disent « Hey, je vais muter !»
Voilà.
C'est quoi une émotion, du coup?
Est-ce que les chocs émotionnels peuvent affecter les cellules? Dans ce cas, peut-être ça peut...
Genre les chocs émotionnels, mais de quel sens? Genre la joie, la tristesse, la peur?
Dans ce cas, ce serait plus du stress.
Ça serait plus du stress. Le stress, c'est tout ce qui est dopamine, etc., ça porte un nom. C'est les hormones. C'est quelle hormone, en fait, qui se déclenche quand on est stressé?
Alors là,
c'est pas la cortisol, comme la colère?
Ah si, t'as raison, c'est totalement la cortisol, ouais.
Donc est-ce que la cortisol... Est-ce que la cortisol, en fait, elle pourrait modifier, venir en fait...
Faire des dysfonctionnements un petit peu.
C'est ça, modifier l'ADN, finalement, d'une cellule. Est-ce que c'est possible? C'est ça, la question.
T'as poussé un très bon raisonnement, là. Du coup...
Parce que je sais que quand tu te prends des radioactivités dans la gueule, si tu fais une petite balade à Tchernobyl dans le cœur du réacteur embétonné, ou tu décides d'entrer dans un cœur de réacteur en activité, là tu risques gros quoi. Mais est-ce que le stress... Après, on sait que le stress, c'est mauvais.
J'ai une petite anecdote par rapport à Tchernobyl que j'ai vue tout à l'heure.
Vas-y.
Il y a un chat, en fait, qui
est... Chat de Schrödinger.
Ah, c'est un chat un peu terrible aussi, mais du coup, en fait, c'est un chat qui est tombé dans une mare radioactive à Tchernobyl. Et en fait, il s'est enfui. Sauf que du coup, tous les villages aux alentours ont peur de lui, parce qu'en fait, c'est un chat littéralement radioactif.
Le chat radioactif.
C'est ça qui se balade, on ne sait pas trop où, et tout le monde est à sa recherche en ce moment.
Quand
Là, c'était assez récent, c'est ça.
Ah, genre la semaine dernière, il y a un chat qui est tombé, mais il n'est pas mort?
Là, ils l'ont pas trouvé pour le moment.
Ah, il est mort.
Oui, c'est possible, mais en tout cas, ça, c'est une petite actualité qui est remontée jusqu'en France. Mais... Du coup, pour en revenir à la question...
Pour en revenir à nos moutons et pas à nos chats.
Je vais vous donner la réponse. Alors.
Attends, vas-y, Félix, tu dirais quoi?
Félix, alors ton avis, Félix.
Franchement, je dirais vrai, parce que je sais que des fois, il y a beaucoup de choses, on a l'impression que c'est pas lié. Et, par exemple, le fait que quand on travaille beaucoup, on a les cheveux qui blanchissent plus rapidement, ce genre de choses. Je suis pas en train de faire des parallèles, je suis pas médecin ou quoi, hein, mais je pense que c'est possible, honnêtement, je dirais vrai, mais je suis pas sûr.
J'aurais tendance à dire pareil que toi.
Donc c'était faux.
Non. Allez.
Mais pour tout vous dire, moi aussi j'aurais dit vrai. Voilà, ouais. C'est ça. Et en fait c'est Stéphane Bern là qui l'a mis au devant de la scène, on va dire, il y a pas longtemps. cette information là, parce qu'en fait il a dit justement, lui il est spécialiste de tout ce qui est roi royauté, et c'est le roi Charles III qui a un cancer. Et du coup en fait Stéphane Bern a dit que cette maladie serait peut-être arrivée au roi Charles III par rapport justement à ses disputes avec son fils Harry. Et ce qui aurait occasionné du stress.
Ah, oui, okay.
Mais les études scientifiques ont montré qu'à ce jour, il n'y a pas de preuves scientifiques qui établissent un lien entre stress, okay, et cancer.
C'est une, voilà, bonne nouvelle finalement.
Bah franchement,
voilà,
là,
oui, c'est une bonne nouvelle. Oui.
Ouais.
Voilà. Là, franchement, le premier, le Botox, j'aurais dit l'inverse. Là, pareil, j'aurais dit l'inverse. Là, tu nous prends. Hein.
Oui, ah, mais ouais, voilà, c'est pas évident. Hein. Faites attention à Stéphane Bern. Autant pour tout ce qui est royauté, il est très fort, mais en termes de santé, voilà, ne l'écoutez pas forcément. Alors là, maintenant, on va partir au Moyen-Orient.
Question 3. To.
Et alors, l'Arabie Saoudite veut construire, ouais, un cube géant. Voilà, donc un cube de 200 mètres de haut, géant.
Comme ça, genre, pour le plaisir.
C'est, hein, pas l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui voulait construire le projet d'immeuble...
Une sorte d'immense ligne.
Ouais,
dans
The Line.
Ouais,
c'est
The,
ça,
Line.
C'est ça, c'est ça. The Line, la ville sur 2 km, là, qui disent qu'elle est, ouais, écolo, alors, mais que...
Pas, pour, ouais, l'instant, pour l'instant, ils ont juste fait une énorme tranchée dans le désert.
The Line, c'est Qatar ou c'est Arabie Saoudite ?
C'est Arabie Saoudite, ouais.
C'est, ok,
Arabie,
c'est aussi Saoudite, là. Et ils se sont dit, on va pas faire que The Line, on va faire The Cube.
On va faire toutes les formes géométriques possibles.
On dirait un nom de série Netflix.
Mais oui, The Line, c'est totalement... Enfin, ils veulent faire une ville futuriste, mais... C'est dystopique comme pas possible. Hein. C'est, comment, ouais, s'appelait, c'est Black Mirror, voilà, c'est ça. C'est une ville où tout le monde va être espionné parce qu'il y aura des caméras partout, et, évidemment, à l'intérieur. Et il y a déjà eu énormément de morts. En fait, les personnes ne voulaient pas quitter l'endroit où elles habitaient.
Ouais.
Et,
ouais,
du coup, l'Arabie Saoudite les a soit délocalisés, soit tués directement pour construire cette ville.
L'horreur.
Voilà.
Ouais. Puis il y a aussi les ouvriers qui travaillent là-dessus dans les conditions.
Oui, voilà, c'est, ah, ça, c'est ça. Mais du coup, voilà, c'est potentiellement. Est-ce que l'Arabie Saoudite voudrait construire un cube géant en plus de cette ville, The Line?
Moi, ça, voilà, m'étonnerait pas du coup.
Après... Attends, c'est ça la question.
De combien,
je m'attendais à un fait scientifique aussi avec.
Ah, oui,
de combien de longueur déjà le cube?
Alors, ça serait 200 mètres de haut.
Il servirait à quoi?
Bah, pas grand chose, à vrai dire.
Ah, yes, c'est faux! Je suis sûr, c'est faux. Ah non, il est en train de se lécher les dents là. En mode, ah, t'es en train de faire une erreur là.
Moi, je veux pas interférer avec mon raisonnement.
Tu dirais quoi, toi, Félix?
En fait, ça m'étonnerait pas. Après, c'est vrai que je vois pas trop... Juste un cube, genre vraiment, sans autre info comme ça. Je sais pas, je dirais faux, mais là aussi, c'est vraiment compliqué à...
Non, tu sais quoi, je vais dire vrai, parce que là, c'est comme censé être un jeu autour de la vulgarisation scientifique qui nous a juste lâché en mode, ils vont construire un cube. Donc, à mon avis, en fait, c'est vrai, et il va nous apporter une information en plus en mode, ce cube servira à rendre les déserts plus verts, à capter l'eau, etc., etc. Donc, je dis, c'est vrai.
C'est mal connaître l'Arabie Saoudite. Hein. Mais oui, tu as bien raison, c'est vrai.
Ah, c'est vrai. Est-ce que, par contre, la raison que j'ai donnée, c'est ça?
C'est l'inverse, en fait. C'est justement, tous les écologues considèrent que c'est un drame au niveau écologique, en fait.
Mais du coup, ils vont juste construire un cube de 200 mètres.
Alors, en fait, pour expliquer, ils vont construire un gratte-ciel.
Ouais.
Au-dessus du gratte-ciel, il y aura un dôme, un peu comme le dôme de Las Vegas avec plein d'écrans. Donc, sauf que là,
ouais,
ce sera un dôme qui va entourer en quelque sorte le gratte-ciel,
ouais,
et qui va projeter des paysages verdoyants en plein désert. Voilà, ils sont très forts pour, okay, pour ça. Et ensuite, autour de ce, ouais, dôme, ils vont construire une sorte de cube géant qui servira pas à grand chose à part faire joli. En béton de 200 mètres de haut et 200 mètres de largeur. Voilà.
Ok, bon, je suis déçu d'avoir eu raison en disant vrai, quoi, parce que là.
Voilà, donc le cube qui s'appellera The Mukaab est encore un des gros projets architecturaux de l'Arabie Saoudite et très, oui, décrié, attends, par les environnementalistes.
Donc, question 4.
Voilà, donc la question 4, je termine vraiment par une note légère. Voilà, ouais, c'est bon. Alors, c'est, est-ce que les tournesols suivent-ils le soleil dans le ciel? Vrai ou faux?
Alors, j'ai envie que ce soit vrai, c'est toute mon enfance que tu,
ouais,
as mis en question.
Ouais, c'est ça, j'ai toujours entendu que c'était vrai, mais vu que tu poses la question, ça me fait douter.
Bah oui, c'est ça.
Ah, oh non, me dis pas que c'est faux.
Vous êtes prêts à entendre la réponse?
Attends,
laisse-moi revoir des tournesols dans un champ.
La beauté de cette chose. Vas-y, dis la réponse. Alors, je suis prêt, t'es prêt, Félix?
Je dirais vrai aussi.
Alors, c'est vrai et faux. Ah oui. Allez. Donc ça va, ton enfance est préservée là, c'est bon, ton enfance est
préservée.
Moitié
préservée,
la moitié préservée, voilà.
André, tu vois la bouteille de lait?
Oui.
Tu l'as ouverte, tu l'as sentie, mais t'as rien bu, tu as juste refermé le bouchon, tu l'as remis dans le frigo, mais dans deux semaines, elle est pourrie tout pareil.
Mais je vais te donner des explications, ça va te rassurer, t'inquiète pas. Et en fait, du coup, oui, le tournesol, il est connu pour sa capacité à s'orienter en fonction du soleil, et ça a un nom, ça s'appelle l'héliotropisme. Donc c'est ce phénomène justement où en fait les bourgeons vont suivre le soleil pour toujours avoir le plus de soleil possible et pour se développer le plus rapidement possible.
J'ai écouté lire les bourgeois.
Ah oui, je sais pourquoi ça te fait rire.
Les bourgeois vont suivre le soleil.
Ah oui, là. Non.
Je suis parti à l'ouest comme le soleil.
Et par contre, à partir d'un certain stade de maturité, ils vont arrêter totalement de bouger. Donc une fois que la fleur va éclore... elle va plus bouger en fait. C'est ça, c'est que les bourgeons qui bougent, mais après la fleur va éclore au niveau en pointant vers l'est et elle va plus bouger.
Ouais, bah c'est clairement ma métaphore de t'as ouvert la bouteille de lait, tu l'as remise et puis c'est bon, elle a moisi parce que moi je pensais que c'était les fleurs ouvertes qui...
Ah non, malheureusement les fleurs d'une certaine maturité ne bougent plus, ouais, c'est ça. Donc
mais dans les dessins animés,
le tournesol bouge au début quand même.
Dans les dessins animés, montrer que le tournesol il suivait le soleil. Mais du coup ça veut dire que les gens dans les dessins animés, c'est pas la réalité.
Aïe. Vrai ou faux?
Mais par contre, ça a un avantage qu'elle ne bouge plus, c'est que l'orientation finale des fleurs, bah, en fait, elle va protéger les graines. Et du coup, bah, même si les tournesols vont pas bouger, ça permettra d'avoir encore plus de tournesols.
Oh, trop bien.
Tout est bien qui finit bien, finalement, pour les tournesols.
Mais ça va, vous en êtes bien sorti quand même. Là, pour la dernière, ouais. Je vous accorde le point pour la dernière.
Ah, c'est gentil.
Bah oui, quand même. Malgré le fait que ton enfance ait pris un petit coup. Voilà.
À moitié gâché, voilà.
Ça valait le coup pour un point.
Pour un point, c'est clair.
Et je reviens...
C'est quoi une enfance à côté d'un bon point?
Et je reviendrai avec que des actus positifs pour la prochaine émission. Voilà, c'est ça. Et je vais mettre la prochaine musique, Coco Chanel de U-Trax.
Vous pouvez bien entendre un peu plus.
Merci à tous de nous avoir écoutés pour La Science Infuse. Salut Félix.
Salut Quentin, merci d'avoir présenté l'émission. Je précise aussi pour nos auditeurs et auditrices que cette émission sera en rediffusion sur notre site internet orléans.radiocampus.org. Donc voilà, la demande, hein, quand vous voulez bien sûr, pour la réécouter. Et sur ce, est-ce qu'on a d'autres choses à...
Non. Et bah à très bientôt et on vous laisse sur Radio Campus Orléans.
Salut.
People who live. Those people who live. Those people.